Win ou lose, telle est la question.
Quel loser?
C'est ma nouvelle.
Elle, je l'aime trop.
Cône. Le gagnant ou le perdant de la semaine.
Roulement de tambour.
Hello à tous. Alors, on commence cette attribution des bonnets d'âne et des lauriers avec un ou une losereuse. Alors, en prononçant cette phrase, je serai peut-être bientôt dans l'illégalité la plus totale en France. Et oui, pendant que le monde brûle, Macron n'a rien trouvé d'autre à faire que de prononcer un discours contre la plus grande menace actuelle, j'ai nommé l'écriture inclusive. Oui, oui, un peu comme si, je sais pas, moi, il cherchait à lancer un débat stérile pour nous distraire, au hasard, d'une crise, d'un génocide en cours. Alors, en fait, pendant son discours qui a eu lieu pour l'inauguration de la Cité de la langue française le 30 octobre dernier, Macron, eh ben, il en a profité pour régler ses comptes avec l'écriture non genrée. Et il a dit « Dans cette langue, le masculin fait le neutre. On n'a pas besoin d'y ajouter des points au milieu des mots, ou des tirés, ou des choses pour la rendre lisible. » Juste pour rappel, le masculin générique, c'est pas neutre, c'est littéralement dans le mot « masculin ». Et ensuite, il a ajouté que la langue forge la nation et qu'il ne faut pas céder aux airs du temps. Effectivement, manquerait plus qu'on évolue. Et je trouve ça drôle pour quelqu'un qui utilise des anglicismes à tout bout de champ et vraiment dont le discours lui-même était bourré d'écriture inclusive. Parce qu'il a pas arrêté de dire « celles et ceux, tous et toutes, chacun chacune ». Donc c'est un petit peu le comble. Et en fait, ce discours-là, il s'est déroulé le jour même du vote par le Sénat qui a interdit l'écriture inclusive. Vous avez bien entendu. Et les sénateurs et sénatrices, oui, je suis rebelle, ont adopté une proposition de loi avec 221 voix contre 82, donc vraiment une écrasante majorité. Et en fait, c'était une loi qui a été proposée par la droite et qui était censée protéger le français de dérive. Et la loi, elle veut bannir l'utilisation de l'écriture inclusive, entre autres dans les contrats de travail, modes d'emploi ou règlements intérieurs d'entreprise. Et donc, les sénateuristes, oui, je suis toujours rebelle, en question, ils sont pas allés de main morte sur l'écriture inclusive. Et donc, selon LE, l'écriture inclusive affaiblit la langue française en la rendant illisible, imprononçable et impossible à enseigner. Et ça serait une idéologie mortifère. Mortifère, carrément. Alors moi, je suis étonnée. Je pensais que le français, c'était une langue vivante, qu'elle pouvait évoluer, être dépoussiérée. Je pensais pas que inclure le féminin et le neutre, ça mettait la nation en péril. Alors juste pour rappel quand même, la dérive en question, donc à savoir l'écriture inclusive, ça sert juste à éviter les biais de genre et donc à faire en sorte que le sens d'un mot ou d'une phrase soit pas influencé par le genre, d'apporter une certaine neutralité et d'inclure tous les genres. Donc si par exemple je dis docteur, le but c'est pas de penser seulement à un homme grisonnant avec des lunettes, mais d'inclure tout le monde. Et donc pour ça, il y a plusieurs trucs. Il y a la neutralisation avec des termes épicènes, donc c'est des mots non genrés, comme par exemple scénariste ou scientifique. Il y a la reféminisation des mots avec une forme double. C'est par exemple quand notre cher président dit « celles et ceux ». Et il y a aussi une forme à l'écrit avec un point médian, le fameux. Et il y a aussi des contractions de mots, comme par exemple le mot « c'est le » pour dire « celles et ceux ». Moi, par exemple, j'utilise les pronoms « yel ». Donc c'est la contraction de « il » et « elle » parce que je me reconnais pas dans la binarité homme-femme des genres. J'avais pas réalisé que je menaçais l'ordre public. Et l'écriture inclusive, figurez-vous que c'est plutôt efficace puisqu'il y a une nouvelle étude de psycholinguistique qui est sortie fin septembre et qui prouve justement son efficacité sur les biais de genre. Et donc les mots non-genrés, ça limiterait les biais et le point médian, ça les supprimerait complètement. Et donc, comme c'est efficace, évidemment, Macron veut l'éradiquer. Bref, Mao, est-ce que t'as des nouvelles un petit peu plus réjouissantes pour faire baisser ma tension?
Si certains pays font du moonwalk, et écoutez, il y en a d'autres qui font des sauts de biche. C'est une métaphore dansée pour vous dire que certains, pas tous, mais certains avancent en termes de droits LGBT et de reconnaissance d'injustice. Et c'est le cas de l'Autriche, petite surprise pour le pays qui n'est pas forcément le plus progressiste, mais qui vient de voter dans son budget 33 millions d'euros alloués pour les personnes qui ont été molestées par des lois clairement anti-homosexualité. Alors, l'homosexualité, elle a été dépénalisée en 1971, mais malgré cela, plein de lois ont été créées par la suite pour quand même criminaliser les personnes LGBT, particulièrement les hommes gays. Par exemple, la prostitution était interdite pour les hommes gays uniquement. La promotion de la fornication entre personnes de même sexe l'était également. Il y avait une limite d'âge pour les relations sexuelles homosexuelles. Fallait avoir plus de 18 ans. quand pour les hétéros et les lesbiennes c'était 14 ans, il y avait aussi l'interdiction de créer des associations LGBTQIA+. Et je trouve qu'il est important de noter cette reconnaissance de crimes d'injustice d'État qui matérialise une demande de pardon, en tout cas celui de la première ministre Alma Zadig le 19 octobre dernier, qui fait qu'on n'est plus dans des paroles en l'air, on n'est pas là genre parole, comme disait Dalida, mais dans des actions. Et je pense que ça, c'est à faire dans la vie publique et dans la vie personnelle. Plus d'actions, moins de paroles. Après cette bonne nouvelle, je vais parler d'un petit truc qui m'a rendu triste sur un tout autre sujet, qui est la mort de l'acteur Matthew Perry, iconique pour avoir joué Chandler dans Friends, mais qui était aussi un homme plein de résilience et de courage et qui faisait face à des addictions hyper difficiles. En 1997, il a eu un accident de jet ski. Pour aller mieux, on lui donne un antidouleur qui s'appelle le Vicodin. Et je vous invite à regarder un documentaire qui est sur Netflix qui parle du fait qu'il y a énormément de médicaments qui sont en réalité truffés de drogue. Et les entreprises, les industries pharmaceutiques font ça pour vendre plus de cachets qu'il ne le faut. Sauf que ça met en péril des vies de gens qui n'ont même jamais pris de drogue dite dure. Matthew Perry, il n'est pas mort finalement d'une addiction à la coke. Il est mort d'une addiction à un antidouleur qui a fait qu'il en a pris jusqu'à 50 par jour à certains moments. Il a aussi créé plein d'espaces pour parler d'addiction, une fondation à son nom pour aider ceux qui sont en lutte contre cette maladie. Et le jour de sa mort, d'ailleurs, il n'est pas mort en teufant ou il est mort d'un arrêt cardiaque dans son jacuzzi qui a fait qu'il s'est probablement noyé. En tout cas, moi, je voulais remercier cette personne pour tous les rires qu'il m'a offert, qu'il nous a offert, tout le bonheur et l'exemple d'une vie de résilience et qui n'est ni noire ni blanche, qui est grise.